ouvrir la bonne parole de Dieu, qu'il est merveilleux ce cantique qui nous exprime le repos de Dieu, hein. Le repos miraculeux, profond, à toute épreuve, dont nous sommes les bénéficiaires. Et je prie pour que ce repos divin soit le partage de chacun, ce matin, les jours à venir, et à travers les circonstances, peut-être qu'on a du mal à imaginer, hein, mais quelle que soit l'amplitude des problèmes, le repos de Dieu est plus fort. Et il a le pouvoir de nous garder sereins et pleins d'espérance. Hein. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous proposer une série de lectures introductives sur lesquelles, bien sûr, au fil de ce message, nous reviendrons. La première épître de Jean au chapitre 1, les versets 5, 6 et 7, pour commencer. Première épître de Jean. Chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. L'évangile de Jean, au chapitre 1, un texte que vous connaissez certainement très bien, il fait partie de ces textes fondateurs. Jean chapitre 1, et dès le premier verset, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Un troisième texte dans l'épître de Jacques, s'il vous plaît. L'épître de Jacques, nous lisons simplement un verset. Au chapitre 1 et le verset 17. Même le verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Et on en termine avec un dernier verset, Ésaïe chapitre 2 et le verset 5. C'est très court. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Voilà donc quatre lectures des Saintes Écritures. Vous l'avez compris, on y trouve dans ces textes, on y trouve une notion qui revient, c'est la notion de la lumière. Je voudrais vous apporter quelques encouragements, quelques instructions sur la lumière nécessaire, indispensable. La première création du Créateur, ce fut la lumière. Vous le savez, hein? Vous le savez, au commencement, hein? La première parole créatrice prononcée, c'est que la lumière soit. Puisque avant cela, la Bible nous dit qu'il y avait les ténèbres. Et la lumière soit, la lumière fut, et Dieu dit que la lumière était bonne. Alors je voudrais ce matin, le sujet est si riche et vaste, être le plus clair possible pour premièrement vous rappeler, mes bien-aimés, que notre Dieu est lumière. Il est tellement lumière qu'il n'y a point en lui de ténèbres, pas même le commencement d'une molécule de ténèbres. Dieu est lumière. C'est ce que la Bible affirme. La lumière, c'est de Dieu. Son royaume, c'est le royaume où règne la lumière. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il ressent en émotion, tout ce qu'il envisage en projet pour nous, c'est lumière. Lumière, lumière parfaite. Dieu est lumière. Par contrario à cette glorieuse réalité, à cause du péché, l'homme a été plongé, lui, dans les ténèbres. Et on ne peut pas parler de la lumière de Dieu sans mentionner une triste réalité, que dis-je, triste, dramatique réalité, la réalité des ténèbres. Le péché a plongé l'être humain dans les ténèbres. La Bible nous dit, en parlant des hommes, même ceux qui sont titrés et diplômés et dans les sommités intellectuelles, ils ont l'intelligence obscurcie. Il y a les ténèbres. Les CV les plus flatteurs n'empêchent pas cette réalité. C'est que l'homme, sans Dieu, est plongé dans les ténèbres. Les ténèbres. Alors bien sûr, dans l'Écriture, la lumière représente des bénédictions précieuses. C'est la lumière de la vie, tel que cela est écrit. C'est la vie. Amen. C'est l'espérance. C'est la guérison. C'est l'épanouissement. C'est le bonheur. C'est le succès, parce que Dieu, c'est le Dieu du succès. L'échec n'est pas de Dieu. C'est le Dieu qui réussit et qui fait réussir. La Bible nous dit, en parlant du croyant, tout ce qu'il fait lui réussit. La lumière, c'est tout cela. La lumière, c'est le salut, c'est la joie. La lumière, c'est l'épanouissement, le contentement parfait. La lumière, c'est un état de perfection. Les ténèbres, c'est tout le contraire. Les ténèbres, ça peut prendre mille formes. Les ténèbres, c'est la dépression. Je vous disais, il y a quelques mois en arrière, en partageant mon témoignage de conversion, de quelle manière ma propre mère a eu une étape, une période de sa vie, mais d'une souffrance incroyable. Elle était plongée dans les ténèbres épaisses de la dépression à tel point qu'elle s'enfermait dans sa chambre et qu'elle n'en sortait parfois pas avant 3 jours d'enfermement. Trois jours sans manger, trois jours sans se laver, trois jours sans avoir le moindre contact. Il n'y avait qu'une seule chose en elle, c'était l'envie de mourir. Les ténèbres, cela. Les ténèbres, c'est tout ça. Les ténèbres, c'est l'angoisse. Les ténèbres, c'est la honte. Ce sont les erreurs commises. Les ténèbres, c'est le désespoir. Les ténèbres, avec une projection éternelle, ben c'est l'enfer. Les ténèbres, c'est la perdition. Oui, bien sûr que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle n'empêche pas qu'il y a des réalités aux conséquences redoutables. Regardez ce maître de maison qui dit de certains individus, « Jetez-les dans les ténèbres du dehors, là où il y a des grincements de dents, expression de tourment, c'est l'enfer. » Et l'enfer existe. Et quelqu'un est en train de se dire, « J'aurais jamais dû venir ce matin au culte. » Mais si, tu as bien fait de venir quand même. Parce que Dieu, parce qu'il nous aime, ne nous cache aucune réalité, aucune réalité. En prenant conscience de ces choses, on comprend en même temps qu'on ne peut pas jouer avec l'Évangile. On ne peut pas jouer avec son âme et le devenir éternel de son âme. En comprenant ces dimensions et ces réalités, on comprend en même temps qu'il y a une priorité à rétablir et que la priorité, ce n'est pas le manger et le boire, la priorité, c'est le salut de notre âme et c'est notre éternité. Donc les ténèbres, frères et sœurs, chers amis, nous parlent de tout ceci et Satan est appelé le prince des ténèbres. Si Jésus lui dit « Je suis la lumière du monde », Satan, lui, eh ben, c'est le prince des ténèbres. Alors, il y a Dieu, lumière, son royaume de lumière. Il y a ici la réalité des ténèbres épaisses dans lesquelles l'homme est plongé et Dieu voit cela. Et mes frères et mes sœurs, Dieu relève un défi. Amen. Parce que notre Dieu aura toujours le dernier mot. Dieu relève le défi. Et il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Un défi. Je me réjouis parce qu'il y a plus de 50 ans, Dieu a porté ses regards sur l'adolescent que j'étais. Et il a dit dans la vie de cet adolescent, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et il a fait briller sa lumière. Et j'ai été sauvé. Amen. Beaucoup ici pourraient confirmer par leur propre témoignage que le Seigneur a exercé la même grâce en leur faveur. Mais peut-être y a-t-il parmi nous ce matin quelqu'un qui est dans un état intérieur enténébré, la nuit, l'aveuglement, le désespoir, les pensées et les perspectives pessimistes ont envahi ton cœur. Eh bien, Dieu te regarde et Dieu dit te concernant, les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie de ce jeune homme, cette jeune femme, de cet homme, cette femme, de cette personne âgée. Les ténèbres, et la volonté de Dieu, c'est que ce matin, pendant ce culte, un terme soit mis au règne des ténèbres et instaure la venue du règne de la lumière. Amen. Dieu relève le défi. Nos gouverneurs, nos autorités, nos experts, nos spécialistes considèrent l'état tellement inquiétant de la société aujourd'hui. Ils font des diagnostics, des analyses, ils font des audits, ils définissent les problèmes, mais ils n'ont pas la capacité de les résoudre. L'actualité le confirme. Eh bien, Dieu, en regardant et en constatant, va plus loin. Il entreprend de sauver et de secourir et de guérir. C'est ainsi que des hommes, des femmes, aujourd'hui, chantent des cantiques. Ils sont des pères de famille, des mères de famille, compétentes, équilibrées. Mais dans leur passé, le Seigneur les a vus dans une misère noire et a déployé sa puissance salvatrice. Un lundi après-midi, un mendiant ivrogne déambulait dans les rues de Firminy, dans la Loire. C'était un lundi, 14h45, une jeune chrétienne allait à la réunion de 15h. Et quand cette jeune fille a vu, oh, ce pauvre individu, elle a eu compassion de lui. Et elle l'a invité en disant, mais monsieur, Dieu peut changer votre vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Sa lumière peut triompher. Venez, Jésus vous aime. Et il est venu. Je ne suis même pas certain qu'il était conscient qu'il était en route pour écouter l'évangile. Tellement il était dans un état second avec l'alcool. Il est venu. Il a à peu près réussi à se tenir tranquille, même si par moments il a perturbé un peu la réunion. Il n'a rien compris de la réunion, rien du tout. Mais il y a une chose qui s'est produite, c'est que le lundi suivant, il s'est dit, je vais y retourner. Et il est revenu, et il est revenu. Et Dieu a fait une œuvre dans sa vie, dans son cœur. Dieu l'a délivré de son alcoolisme, de ses addictions. Dieu a pardonné ses péchés, a reconstruit les dégâts profond que ses échecs lui avaient infligé. Il est devenu un homme transformé. Dieu lui a donné un travail et rapidement son patron lui a donné des responsabilités dans l'entreprise. Dieu a permis qu'il rencontre son épouse et il est devenu un bon époux et qu'il ait des enfants et il est devenu un bon père de famille. Et c'est un homme qui est même devenu dans son église locale, j'ai été quelques années son pasteur, eh bien, un chantre et puis un prédicateur local, un homme qui était la démonstration qu'avec Dieu, les ténèbres n'auront pas le dernier mot. J'aimerais apporter une parole d'encouragement ce matin à quelqu'un. Même si tu as l'impression d'être dans les ténèbres, le Saint-Esprit peut te visiter maintenant et peut changer la situation enténébrée en règne de lumière, que Dieu soit béni. C'est le défi de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Alors parce que Dieu relève le défi, eh ben, il nous envoie la lumière. Amen. Il nous envoie la lumière. C'est là que prend toute sa place le premier chapitre de l'évangile de Jean, où il est question de la lumière de la vie, qui éclaire tout homme. Alléluia, Jésus est venu. Même les incroyants confessent qu'ils croient en Jésus lorsqu'ils disent 50 ans avant Jésus-Christ, 115 ans après Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ a marqué l'humanité. Amen. Un événement suprême, majeur, essentiel. Dieu, lumière, nous a envoyé la lumière en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus est venu. Et là, il y a quelques constats à faire. C'est que l'humanité va se scinder en deux catégories de personnes. Ceux qui ne reçoivent pas la lumière, et je prie pour qu'il n'y en ait pas un comme cela ce matin, et puis ceux qui reçoivent la lumière. Oui, parce que la lumière, c'est beau, mais ça dérange. C'est pas vrai? La lumière, ça dérange. Nous avons lu ce verset 17 de Jacques chapitre 1, le Père des Lumières, le Père des Lumières, au pluriel, je serais amené à définir trois sortes de lumières, en fait, trois impacts différents de la lumière. Et le premier impact, c'est la lumière de condamnation. Et je m'empresse de préciser que la lumière de Christ ne condamne pas le pécheur, mais le péché dans la vie du pécheur. Amen. C'est la lumière de condamnation. Il y en a qui n'aiment pas la lumière parce que ça les dérange. Ça les bouscule. Il y en a qui préfèrent une religion de surface, quelques croyances traditionnelles qui ne remettent pas en question leur mode de vie. Et lorsqu'ils entendent annoncer clairement l'évangile, ça les dérange, ça les bouscule. N'est-ce pas une évidence? Lorsque je marche ou je roule en voiture à l'encontre des rayons du soleil, le soleil est là, il descend, hein, près de l'horizon, et moi je l'ai dans les yeux, ben, le soleil m'agresse. Oui ou non? Parce que je vais à l'encontre de ces rayons. Alors le soleil m'éblouit. C'est comme une lumière de condamnation. Et l'évangile met en évidence des réalités personnelles, secrètes. Et vous savez, quelle que soit l'évolution des philosophies au sein de cette société, Dieu continue à appeler le mensonge, mensonge. Amen. Alors, aujourd'hui, on dit que le mensonge, c'est une adaptation de la réalité. Non, le mensonge, c'est le mensonge. Le vol, c'est le vol. L'orgueil, c'est l'orgueil. Le péché, c'est le péché. Et bien sûr, ça me dérange. Mais ce n'est pas pour me déranger que Dieu m'éclaire de la sorte. C'est pour me sauver. Moi, je bénis le Seigneur de ce que, dans toutes ces premières réunions, les premières semaines où j'ai commencé à fréquenter l'Église, mes amis, les prédications des pasteurs, j'avais l'impression qu'ils ne prêchaient que pour moi. Et ils mettaient le doigt là où ça dérange. Mais aujourd'hui encore, je remercie le Seigneur parce que, impacté par la lumière, j'ai été convaincu de péché, je me suis repenti de mes péchés et il s'en est suivi la certitude du pardon de mes péchés et de la réconciliation avec Dieu. Amen. Il y a le déni. Il y a ceux qui disent, bop, ça c'est des choses rétrogrades, oh là là. Et donc, ils ne reçoivent pas la lumière, mais l'évangile de Jean nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, écoutez bien, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah, quel miracle, hein? Quel miracle. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et quelqu'un, ce matin, peut naître de nouveau et devenir enfant de Dieu. Tu es peut-être enfant d'enfant de Dieu, mais ce n'est pas suffisant, il faut que tu deviennes toi-même enfant de Dieu. Et le seul moyen, c'est d'ouvrir ton cœur à la lumière du Seigneur qui va te placer des évidences personnelles. Dieu va mettre le doigt sur tes faillites, tes péchés. Tu vas te repentir et, comme promis, le Seigneur va t'accorder le pardon, la délivrance. Que Dieu soit béni. Amen. Les chrétiens, eh bien, ce sont des hommes, des femmes qui étaient plongés dans les ténèbres hier, mais qui aujourd'hui sont passés dans le royaume de la lumière de Dieu. Amen. L'Épître aux Colossiens va affirmer ce merveilleux témoignage. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Quel miracle. Délivrés de la puissance des ténèbres. Parce que les ténèbres sont des réalités coriaces, installées profondément en nous, dans nos mentalités, dans notre fonctionnement intime. Eh bien, quand Dieu fait briller sa lumière, certes, elle nous éblouit, elle nous agresse, elle nous dérange, mais suite à notre repentance, nous sommes délivrés. Alléluia. Et l'ancien menteur ne ment plus. Amen. Celui qui évoluait dans la dissimulation, la duplicité, etc., devient maintenant d'une transparence, d'une honnêteté, d'une limpidité exemplaire. Alléluia, gloire à Dieu. Celui qui se plaisait à juger et à être là toujours dans un regard critique est transformé maintenant, il bénit. Amen. Amen. Il bénit, il exprime les fruits de la lumière, tout simplement. Il y a eu la conversion. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philo, c'est un miracle qui me transforme en enfant de Dieu. Et vous savez, la même lumière qui m'éblouissait, parce que maintenant je me suis converti, et se convertir c'est faire demi-tour, eh ben, elle m'éclaire. Oui ou non? Elle m'éclaire, elle me rend service. Parce que j'ai changé de direction et maintenant, je marche dans la direction des rayons de la lumière. C'est pourquoi le prophète Ésaïe dit « Venez et marchons à la lumière de l'Éternel !» Gloire à Dieu. Et là, la lumière qui a été une lumière de condamnation de mes péchés, elle devient une lumière de communion. C'est la lumière de la communion. Je marche avec Dieu. Je marche avec Christ. J'aimerais prendre quelques minutes, frères et sœurs, pour vous présenter quelques-uns des aspects sublimes et merveilleux de marcher à la lumière du Seigneur. Amen. On veut tous sincèrement marcher à sa lumière ? Amen. Quelqu'un me dira, oui, de temps en temps, mais comme disait ce chrétien, c'était un petit peu douteux comme prière, il était dans un besoin matériel, et il disait, Seigneur, donne-moi un quart d'heure de païen, le temps de voler une poule, et c'est bon. Même pas un quart d'heure, même pas une minute, on marche dans la lumière. Il y a une communion. C'est la lumière de la communion. On a lu ensemble, Dieu est lumière. Et le roi David se lève et il nous apporte son témoignage. Au psaume 27, il dit, l'Éternel est ma lumière. Amen. L'Éternel est ma lumière, autrement dit, ma vie. Dans tous ses aspects, même ses aspects les plus intimes, secrets, caché aux yeux publics, mais devant le Seigneur, il est ma lumière. Amen. Que ce matin, quelqu'un prononce avec foi cette parole de Dieu, l'Éternel est ma lumière. Conséquence, de qui aurais-je crainte? Amen. Et de qui aurais-je peur? Si Jésus est ta lumière, mais tu es libéré des craintes. Il est ta lumière. Amen. Il y a un truc que j'aimais vraiment pas, moi. Quand j'avais 10 ans, 11 ans, à la maison, dans ma jupe de Rieu, c'est quand mon père disait, tu vois mon fils, là, ce vieux carton, là, mets-le à la cave. J'aimais pas aller à la cave. Oui, papa, il n'y a pas de problème. Mais moi, intérieurement, j'avais une frousse incroyable. Alors j'avais le carton, j'ouvrais la porte générale du sous-sol Et c'était noir. Et je vous assure, mon imaginaire me faisait imaginer que derrière ce mur, un monstre allait sortir. Vous savez, quand on est gosse, vous voyez, on imagine des tas de trucs. Là vous avez une usine à images, là, vous voyez. Hein, on produit des images, pas toujours rassurantes. Et entre le seuil de la porte et l'interrupteur, il y avait 5 mètres. Mais pour moi, c'était inaccessible. Et j'allais quand même, et j'appuyais sur l'interrupteur, et il y avait la lumière. Et je me disais, t'es pas un peu bête quand même de t'être imaginé. Dès que la lumière était là, j'étais tranquille, voyez-vous. Et il en est ainsi pour nos émotions. Si l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Quel est le malheur potentiel? Quel est le danger potentiel? Quel est l'événement potentiel devant lesquels je serai comme effarouché? L'Éternel est ma lumière. Alors il y a une assurance qui m'habite. Et je prie pour que l'assurance de Dieu chasse tes craintes ce matin et que tes émotions soient tranquillisées, stabilisées. Amen. Que quelqu'un sur sa chaise, silencieusement, prononce ce verset devant le Seigneur ce matin, là, maintenant. Seigneur, tu es ma lumière, de qui aurais-je crainte? De quel événement aurais-je peur? Tu es ma lumière et ça me suffit. Ça suffit pour procurer à mon être intérieur l'assurance, la sécurité, que le Seigneur soit béni. Un autre verset concernant cette lumière de communion maintenant, on le connaît tous par cœur, on pourrait le réciter de mémoire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors voilà, si vous voulez développer cette lumière de communion dans votre marche quotidienne, il est indispensable que quotidiennement, vous puissiez vous plonger dans la parole de Dieu. Parce que sa parole est une lampe au pied de chaque croyant. Vous savez, ces lampes de l'époque, hein, ces lampes, c'était des potiches en argile. On y mettait de l'huile, il y avait une mèche, et on mettait le feu, et la combustion de l'huile émettait une flamme. Vous voyez, ce n'était pas des gros projecteurs qui vous éclairaient à 300 mètres. Hein. C'était une petite lampe au pied et ça vous éclairait 1,50 m. Donc c'est la marche du chrétien, pas après pas. Certains voudraient connaître leur avenir à moyen et long terme. Seigneur, donne-moi la carte de route. La feuille de route, j'aimerais connaître. Non, tu marches quotidiennement à la lumière suffisante, pas excessive, mais suffisante pour garantir le prochain pas, déjà. Amen. On marche pas à pas. J'ai toujours été inquiété par la démangeaison de certains chrétiens à brûler les étapes. Ne cherchons pas à brûler les étapes, marchons à la lumière du Seigneur. Gloire à Dieu. Et voilà, quel est ton prochain pas? Dieu va t'éclairer pour assurer ton prochain pas, pas à pas. Parce que, voyez-vous, il ne faut pas forcément une catastrophe pour tomber. Il suffit de rater un pas. C'est pas vrai? Nous, on a dû ramasser, entre guillemets, un frère âgé à Nîmes, parce qu'il avançait et puis il y a un pas où il a trébuché contre un accident sur la chaussée et il est tombé devant l'entrée de l'église. Donc, pour provoquer une chute, il ne faut pas forcément une catastrophe, mais il suffit de rater un pas. Alors, ta parole est une lampe à mes pieds et elle garantit chaque pas, chaque décision, chaque réaction, chaque attitude face à une problématique. Comment je vais réagir? Comment je vais gérer? Eh bien, je veux gérer à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Il y a dans sa parole tous les conseils précis et adaptés pour m'aider à assurer chaque pas que le Seigneur nous donne de demeurer à la lumière de sa parole. Puis, je continue, un troisième aspect de l'effet bénéfique de la parole de Dieu, de la lumière de Dieu, pardon, dans ma vie, c'est l'aspect qui touche à l'intelligence éclairée de chaque enfant de Dieu. Dieu veut éclairer mon intelligence. Amen. Puisque je l'ai cité tout à l'heure, la Bible nous dit que ils ont, les hommes, ils ont l'intelligence obscurcie. Alors, j'ai besoin que Dieu éclaire mon intelligence. Et il y a quelques versets, on aurait pu en citer d'autres. Par exemple, il y a ce verset qui dit « Donne de la clarté à mes yeux ». Amen. C'est important de prier dans ce sens. Seigneur, là, je ne sais pas comment réagir, comment analyser telle ou telle situation, mais j'ai besoin que tu donnes de la clarté à mes yeux, afin que j'y voie convenablement. Un autre texte dit « C'est par ta lumière qu'on voit la lumière ». Donc, j'ai besoin de la lumière d'en haut. Hein. Et puis, vous connaissez ce texte de l'Épître aux Éphésiens. « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Christ t'éclairera. C'est très important d'avoir une intelligence éclairée par la lumière du Seigneur. Moi, je dis que les gens les plus intelligents sur terre, ça devrait être les enfants de Dieu. Et là, j'aurais attendu un gros amen. Les enfants, pourquoi? Ben parce qu'ils ont ce privilège de bénéficier de la lumière de Dieu qui va éclairer leur intelligence. L'intelligence obscurcie par toutes sortes de facteurs. Dieu veut l'éclairer. Regardez, le jour où Jésus ressuscité marche et il voit venir à sa rencontre deux disciples qui allaient vers Emmaüs. Et il les voit tristes, à déprimer. Et il arrive à leur hauteur et il leur dit « Mais vous parlez de quoi entre vous pour avoir une tête aussi déconfite ?» Ça, c'est la version Tcherkéchian. « De quoi vous parlez ?» Et il exprime la raison de leur tristesse, de leur abattement. Et Jésus continue le dialogue et à un moment donné, la Bible dit « Il leur ouvrit l'esprit ». Amen. Moi, je dis une chose. Tant que Dieu, sur telle ou telle problématique, ne m'a pas ouvert l'esprit, je dois être très prudent à l'égard de mes modes de pensée. Combien de fois Jésus a dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées ?» Si je n'ai pas la lumière de Dieu pour éclairer mon intelligence, je pense mal, c'est sûr. Et quelqu'un a dit « Si tu penses mal, tu vis mal. » Et moi, je veux bien penser. Et pour bien penser, j'ai besoin d'être éclairé de sa lumière. Une intelligence éclairée. Personne ici ne peut prétendre se dispenser de l'éclairage du Seigneur. Moi, j'ai besoin que Dieu m'éclaire. Et vous ? J'ai besoin que Dieu éclaire mon intelligence. Vous savez, dans le fonctionnement de l'intelligence, sans aller trop dans le détail, j'aimerais décortiquer trois maillons, trois étapes successives, trois maillons. Il y a la connaissance, il y a la compréhension et il y a la sagesse. Et ça, ensemble, ça fait l'intelligence. La lumière de Dieu commence par éclairer ma connaissance. Je connais. Avant, j'ignorais. Maintenant, je connais. Et c'est très important. Dieu ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Il veut nous éclairer au niveau de la connaissance. L'apôtre Pierre a dit, mais nous, Seigneur, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. La connaissance. Ceux qui avaient l'intelligence obscurcie disaient, oh, ce Jésus de Nazareth, c'est Ésaïe réincarné, c'est Jérémie réincarné. Chacun avait son opinion. Ils pensaient comme ci, comme ça, mais ils étaient tous dans l'erreur. Mais Pierre va dire, non, nous c'est différent. Nous avons été éclairés et nous avons connu que tu es le Christ. Amen. Le Fils du Dieu vivant. La connaissance. Sauf que la connaissance, il faut qu'elle aille à la deuxième étape, qui est la compréhension. La compréhension, c'est le fait de prendre, de s'approprier. Ce que Dieu me fait connaître, je dois me l'approprier. La compréhension. Et ça nous parle d'une attitude hospitalière et accueillante de mon cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Si la parole de Dieu rebondit sur une porte blindée et verrouillée, elle ne produira pas les fruits qu'elle est en mesure de produire cependant. Mais si je comprends, si je prends en moi, si je dis « Seigneur, quelle est bonne ta parole, tu as raison, elle correspond à mes besoins, elle correspond à ce que je suis en train de vivre, j'ouvre mon cœur, je reçois ta parole. Ceux qui reçurent sa parole, dit la Bible, ceux qui reçurent sa parole, eh bien, ça permet à la parole de Dieu de produire des fruits merveilleux. Et puis, parmi ces fruits, il y a la troisième étape, c'est la sagesse. Connaître d'abord, prendre en soi, comprendre, et puis après, la sagesse. Et la sagesse, il y a un équivalent qui pourrait être le savoir-faire. Le savoir-faire. Savoir, dans tous les aspects de notre quotidien, savoir comment gérer. Comment gérer ? Et il y a plein de domaines. Voilà, comment bien élever nos enfants, nous qui sommes des parents chrétiens, alors que la société prône des valeurs apostates en constitutionnalisant des choses qui, sur le plan biblique, sont en aversion aux yeux de Dieu. Comment bien élever nos enfants ? Comment les amener à aimer les choses de Dieu? Comment favoriser leur conversion? Il faut une sagesse. La Bible nous dit le sage s'empare des âmes. Il faut une sagesse. Moi, j'ai connu des parents radicaux qui ont plutôt, excusez-moi le terme, dégoûté leurs enfants de la notion de Dieu par leur excès, par leur gouvernance radical, ils ont voulu imposer, etc. Non, moi je crois que Dieu veut nous donner une sagesse pour amener au salut nos enfants, pour gérer nos crises au sein du couple. Il peut tout à fait se produire qu'il y ait des crises familiales. Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais chrétiens, ça veut dire tout simplement qu'on a à gérer des réalités de cette terre. Voilà, il peut y avoir la maladie, comment gérer la maladie. Il peut y avoir un passage de difficultés financières. On peut se trouver dans une situation très, très juste, très limite, comment faire. Et on peut énumérer tous les aspects de la vie pour lesquels Dieu veut nous donner sa sagesse. Une intelligence éclairée. Gloire à Dieu. Amen. J'ai pas besoin, moi, de faire des numéros verts et demander conseil. Non. J'ai un numéro. Je demande conseil à celui qui peut éclairer mon intelligence. Gloire à Dieu. Amen. On dit que c'est intelligent. de prendre l'initiative d'aller demander pardon à un frère, d'aller demander pardon à une sœur, dont on sait qu'un jour, dans tel contexte, nous l'avons blessé. La sagesse veut qu'on répare ces choses, qu'on les répare. Ce serait une folie de penser que l'offense se dilue dans le temps qui passe. Le temps ne règle rien. Par contre, l'offense disparaît immédiatement quand j'ai la sagesse de suivre l'exemple de Christ et d'exercer le pardon généreux, définitif, que le Seigneur soit béni. Il nous faut la sagesse de Dieu, oui ou non ? Amen. Et c'est encourageant parce que l'apôtre Jacques va écrire, si quelqu'un en manque, je ne sais pas s'il y en a ici qui en manque. Moi, j'en manque quand même, j'en manque. Mais il ne faut pas qu'il se décourage. Qu'il la demande à Dieu. Amen. Qu'il la demande à Dieu, qui va donner sans faire de reproche. Jamais Dieu ne va te dire, c'est maintenant que tu viens. Non. Dieu est honoré lorsqu'il voit son enfant venir dire, Seigneur, je manque de sagesse, la sagesse d'en haut, parce qu'il y a la sagesse aussi charnelle, terrestre, vous voyez, mais la sagesse d'en haut, il me la faut, Seigneur. Eh bien ça, c'est agréable à Dieu, et il donne sans reproche la sagesse, que le Seigneur soit béni. Amen. Je termine, et quelqu'un vient de dire, il y a un verset qui dit ceci. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, oh là là, quelle bénédiction, nous sommes mutuellement en communion. Amen. Nous sommes mutuellement en communion. C'est une communion horizontale. Alléluia, dans les relations fraternelles. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors il se passe ce phénomène infiniment béni, nous sommes mutuellement en communion. Et dans ce registre-là, Paul dit aussi cette parole, si en quelque point vous êtes d'un autre avis, eh bien Dieu vous éclairera la lumière. Dieu vous éclairera. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Cette merveilleuse conséquence que la lumière engendre dans nos cœurs, dans le domaine de la communion fraternelle. Tant que je me positionne au niveau d'un avis, chacun a son avis. Chacun a son avis, selon sa culture, son éducation, son vécu, chacun a un avis. Mais la marche unie de l'Église ne se base pas sur les avis, mais sur la lumière de Dieu. Quand c'est Dieu qui éclaire. Amen. Et je prends un petit exemple très rapide, presque risible, mais je l'ai vécu quand j'étais tout jeune. Alors, là, vous me voyez, là, vous voyez ? Imaginez-moi, 50 ans en arrière, j'avais plus de cheveux que les plus chevelus de vous. J'avais une tignasse brune d'un jeune adolescent oriental, et ma coiffeuse, c'était ma mère. Et un jour, je dis à ma mère, « Maman, dimanche, là, on rentre de la répétition de la chorale. Coupe-moi les cheveux parce que là, ils ont poussé, trop poussé. » Et elle me dit, « Mon fils, d'accord, allez, dès que tu rentres de la répétition de la chorale, je te coupe les cheveux. » Ok, je m'installe, elle prend ses ustensiles et au moment de commencer, elle me dit non. « Non, mon fils, je te coupe pas les cheveux. » Ah bon ? Et pourquoi ? Elle me dit, parce qu'on est dimanche. Et dimanche, tu vois, c'est le jour du Seigneur, tu vois. Et normalement, on ne doit pas travailler. Je te couperai lundi. J'ai dit, maman, il n'y a pas de problème. tu me couperas lundi. Ils seront un peu plus longs, mais bon. tu me couperas lundi. On n'est pas entré en conflit ensemble. Et il m'a coupé les cheveux le lendemain. Quelques années ont passé. Elle est restée ma coiffeuse, attitrée. Mais son intelligence a été éclairée. Un peu plus. Parce que Dieu ne nous éclaire pas d'une lumière entière d'un coup. Son éclairage est progressif. Gloire à Dieu. Ce que tu as compris de la vie chrétienne aujourd'hui évoluera au fil de l'éclairage de Dieu. Amen. Et je vous dis, 2-3 ans après, alors ma mère, elle m'a coupé les cheveux, que ça soit un lundi, un dimanche, un samedi, un vendredi, elle a compris que ce n'était pas une question de jour. Elle a compris cela. Personne ne lui a imposé, mais c'est elle. Avec les lectures bibliques, sa communion avec Dieu, l'intelligence, la sagesse d'en haut, elle s'est développée, elle a progressé dans son intelligence. Et c'est ainsi que dans notre marche chrétienne, frères et sœurs, personne n'est exempt de cette réalité. Dans notre marche chrétienne, il y a tant et tant de fausses compréhensions de la vie chrétienne qui nous bloquent. Ça nous bloque. De fausses compréhensions. Voyez, moi, j'ai fait plusieurs missions en Arménie et je respecte énormément mon peuple et sa culture, mais il y a, pour des raisons culturelles et historiques, des fausses compréhensions qu'ils ont sur certains passages bibliques. La solution, c'est quoi ? L'empoignade ? Non. L'éclairage. Que Dieu éclaire. Il faut que Dieu éclaire. Et l'apôtre Paul ne va pas entrer dans une sorte d'affrontement. Si vous êtes d'un autre avis sur quelque chose, ben, Dieu vous éclairera. Alléluia, hein ? Mais au point où nous en sommes, eh bien, marchons d'un même pas, que le Seigneur soit béni. Quand je suis d'un avis contraire, je dois me poser la question à moi-même, sur quelles bases ? Sont-elles des bases justifiées, bibliques, avérées, confirmées ? Ou ai-je besoin que Dieu augmente l'éclairage de mon intelligence ? En tout cas, aimons la lumière. Attachons-nous à la lumière. Dans ce monde de ténèbres dont Jésus a dit « La nuit vient !» La nuit vient ! Elle est en train. Chaque mois, il y a des nouveautés. L'angoisse, l'apostasie, les choses blasphématoires qui sont mises en valeur. L'humanité s'enlise dans des ténèbres épaisses, mais au milieu de ces ténèbres, il y a un peuple qui brille. C'est l'église d'Aubagne. Et c'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. L'église qui ne va se laisser en rien influer par les ténèbres environnantes, mais au contraire, c'est la lumière de Christ dans l'église qui va prendre le dessus. Et nous verrons, si Dieu le permet, dimanche prochain, un troisième aspect de la lumière. On a vu la lumière de la condamnation pour le salut du pécheur, la lumière de la communion pour gérer la marche chrétienne. Et je vous parlerai, si Dieu le permet, de la lumière de la diffusion et de la propagation. Ça, c'est la dimension missionnaire, parce que Dieu veut aussi éclairer ceux qui sont dans les ténèbres aujourd'hui. Nous en faisions partie, nous sommes enfants de lumière aujourd'hui, mais des millions et des millions, eux, sont encore dans une perdition tragique, et Dieu nous missionne, mais je vous apporterai ça un peu plus en détail dimanche prochain. Est-ce que quelqu'un dans son cœur va faire monter à Dieu sa prière personnelle, dire « Seigneur, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin que tu m'éclaires, j'ai besoin, Seigneur, d'être rassuré. Merci de me rappeler, Seigneur, que tu es ma lumière et que je n'ai aucune crainte fondée à avoir. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. » Et quelqu'un peut-être qui n'est pas encore vraiment converti à Jésus-Christ, tu n'as peut-être pas encore donné ton cœur à Jésus-Christ, eh bien ce matin tu prends conscience que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, c'est un jour et un instant de salut. Alors accepte la lumière. que Jésus soit ta lumière. Que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce que